Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nightmare Tree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Publié pour la première fois en 1998, Souffrance en France est un essai de Christophe Dejour, psychiatre, psychanalyste et figure majeure de la psychodynamique du travail. Le livre étudie les effets psychiques et sociaux des transformations du travail dans la France néolibérale ainsi que la montée du chômage, de la précarité et des méthodes managériales plus contraignantes. Son objet ne se limite pas à décrire la détresse des salariés ou des personnes privées d'emploi. Dejour cherche surtout à comprendre comment des situations reconnues comme injustes finissent par être tolérées, minimisées ou présentées comme inévitables. Il analyse donc les conduites de ceux qui subissent, de ceux qui organisent et de ceux qui observent cette souffrance. Nourri par la clinique du travail et par des références à Hannah Arendt et Jürgen Habermas, l'essai examine les mécanismes de consentement silencieux qui permettent au système de durer. Il propose ainsi une lecture à la fois psychologique, éthique et politique des rapports de domination au travail. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, la banalisation de l'injustice comme problème central, le point de départ de Dejour est précis, l'injustice sociale n'est pas nouvelle. Mais son acceptation ordinaire constitue un phénomène historique et moral majeur. Le chômage durable, l'exclusion et la dégradation des conditions de travail provoquent des atteintes profondes à la santé et à l'identité. Pourtant, ces atteintes tendent à être interprétées comme les conséquences nécessaires de la compétition économique plutôt que comme des choix d'organisation. Cette transformation du regard est ce que le livre nomme « banalisation ». Une pratique auparavant considérée comme inacceptable peut devenir une règle de gestion, puis une réalité à laquelle chacun doit s'adapter. Dejour refuse ainsi de réduire la souffrance à une fragilité individuelle ou à un accident isolé. Il la relie aux structures qui imposent concurrence, sélection et menaces permanentes de déclassement. Son analyse porte également sur le déni collectif. Savoir que des personnes sont détruites par la perte d'emploi ou par certaines contraintes ne conduit pas automatiquement à agir. La connaissance peut être neutralisée par des récits qui invoquent la nécessité, le réalisme ou l'absence d'alternative. Le livre déplace donc la question, il ne demande pas seulement pourquoi les victimes souffrent, mais comment une société en vient à considérer cette souffrance comme ordinaire et supportable. Deuxièmement, la peur et la honte au fondement du consentement silencieux. Dejour identifie la peur comme un ressort essentiel de la coopération avec des organisations du travail nocives. La peur de perdre son emploi, de ne plus être reconnu comme compétent, de subir une mise à l'écart ou de rejoindre les chômeurs incite les salariés à accepter des exigences qu'ils jugeraient autrement excessives. Elle ne produit pas uniquement la passivité, elle peut aussi encourager la participation à des procédures de contrôle, d'évaluation ou éviction de collègues. Le mécanisme devient plus complexe avec la honte. Lorsqu'une personne accomplit, pour préserver sa place, des actes contraires à ses valeurs, elle peut éprouver une souffrance éthique. Plutôt que de reconnaître pleinement ce conflit, elle peut chercher à le recouvrir par la justification, la conformité au groupe ou le silence. Dejour montre ainsi que la soumission ne traduit pas nécessairement une adhésion sincère à la logique managériale. Elle peut relever de défense psychique face à une situation vécue comme sans issue. Cette approche évite deux simplifications accuser abstraitement les individus de lâcheté ou les décrire comme de simples victimes dépourvues de capacité d'action. Elle met en évidence la pression concrète qui articule vulnérabilité personnelle, dépendance économique et responsabilité envers autrui. Troisièmement, la banalité du mal transposé aux organisations du travail, la référence à Hannah Arendt sert à Dejour pour penser la participation ordinaire à des pratiques dommageables. Il ne soutient pas que le monde du travail équivaut au crime totalitaire étudié par Arendt. Il mobilise plutôt le concept de banalité du mal afin d'interroger la manière dont des personnes ordinaires peuvent contribuer à des décisions injustes sans se percevoir comme responsable donne tort. Dans une organisation hiérarchisée, chacun peut ne voir que sa tâche, appliquer une procédure ou transmettre une injonction venue d'en haut. La division des rôles fragmente alors la responsabilité et rend moins visible le dommage global causé à une personne ou à un collectif. Cette lecture éclaire les effets des licenciements, de l'évaluation permanente ou de la mise en concurrence lorsqu'ils sont administrés comme de simples opérations techniques. La force de l'argument réside dans son attention aux médiations vocabulaires gestionnaires, obéissance à des objectifs chiffrés, loyauté envers la hiérarchie et isolement des individus. Le parallèle a suscité des réserves légitimes lorsqu'il est compris comme une assimilation entre capitalisme et nazisme. Lu avec précision, il vise surtout à rappeler qu'aucune organisation ne devient moralement neutre parce que ses pratiques sont routinières ou légalement encadrées. Quatrièmement, distorsion de la communication et effacement du conflit réel, le livre s'appuie aussi sur la notion de distorsion communicationnelle associée à Jürgen Habermas. Dejour s'en sert pour examiner les conditions dans lesquelles la parole sur le travail devient difficile, incomplète ou trompeuse. Les salariés peuvent être invités à s'exprimer, mais ne pas disposer d'un espace où les désaccords sur les méthodes, les cadences ou les effets humains des décisions puissent être entendus sans risque. Dans ce cadre, la communication institutionnelle peut présenter les restructurations et les objectifs de performance comme des réalités purement techniques. Les conflits de valeurs sont alors traduits en problèmes d'adaptation individuelle. Cette distorsion est importante car le travail réel ne se réduit jamais entièrement aux consignes formelles. Il suppose des ajustements, de l'entraide, de l'expérience et des arbitrages pratiques que les indicateurs ne saisissent pas toujours. Lorsque ces dimensions ne peuvent être discutées, les personnes perdent des moyens de nommer ce qu'elles vivent et de construire des réponses collectives. La souffrance devient plus aisément privée, médicalisée ou dissimulée. De Jour ne propose donc pas seulement une critique des discours officiels. Il souligne l'enjeu démocratique de la délibération sur le travail, rendre visibles les effets des décisions. Confronter les critères de gestion aux exigences de santé et reconnaître la compétence de ceux qui réalisent effectivement les tâches. En dernier lieu, le travail comme lieu de reconnaissance, de santé et de responsabilité collective, l'originalité de De Jour tient à sa conception exigeante du travail. Celui-ci n'est pas seulement un revenu, une position sociale ou une série d'instructions à exécuter. Il participe à la construction de l'identité et peut fournir reconnaissance, coopération et sentiment d'utilité. Inversement, la privation d'emploi et l'organisation pathogène du travail fragilisent les liens sociaux autant que l'équilibre psychique. Cette perspective explique pourquoi la souffrance des chômeurs et celle des salariés doivent être pensées ensemble. La menace du chômage discipline ceux qui restent en poste, tandis que l'exclusion des uns est plus facilement tolérée par les autres lorsqu'elle paraît inévitable. Face à cette configuration, le livre ne livre pas une recette de management bienveillant. Il invite à rétablir la possibilité d'une action collective fondée sur la reconnaissance du travail réel et sur la discussion des finalités. La responsabilité ne repose pas uniquement sur les dirigeants, même si les choix organisationnels sont déterminants. Elle concerne aussi les collectifs qui peuvent accepter ou contester certaines pratiques. Cette idée est inconfortable, mais utile à combattre la banalisation de rendre à nouveau pensables les liens entre actes quotidiens. Règles institutionnelles et conséquences pour autrui. La santé au travail devient alors une question de justice sociale, et non un simple dispositif de prévention individuelle. En conclusion, Souffrance en France s'adresse aux lecteurs qui veulent comprendre les dimensions humaines du chômage, de la précarité et des transformations managériales salariées. Représentants du personnel, responsables d'organisations, soignants, étudiants en sciences humaines et citoyens intéressés par les rapports entre économie et démocratie. Sa lecture est particulièrement utile pour éviter deux réflexes fréquents attribuer la détresse au seul manque de résistance des individus. Ou expliquer toute situation par une abstraction économique sans examiner les conduites concrètes qui la rendent possible. De Jour fournit un vocabulaire pour analyser la peur, la honte, le déni, la coopération contrainte et la reconnaissance du travail réel. Ces outils aident à identifier les effets éthiques de décisions souvent présentées comme neutres ou purement gestionnaires. Par rapport à de nombreux ouvrages sur le mal-être au travail, l'essai se distingue par son ambition théorique. Il ne se limite ni à inventorier les risques psychosociaux ni à recommander des améliorations de climat interne. Il relie la clinique de la souffrance à une critique des formes ordinaires de consentement social. La référence à Arendt, parfois controversée, donne à l'argument une portée morale qui oblige à discuter les limites de l'obéissance et de la routine organisationnelle. Le livre reste exigeant et son cadre psychanalytique peut demander une lecture attentive. Mais il demeure une référence pour penser le travail comme un lieu où se jouent simultanément santé, dignité, responsabilité et possibilité de transformation collective. Si vous souhaitez soutenir Christophe De Jour, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.